chapitre 6, verset 30. Nous étions restés au verset 29. Notre étude se veut systématique, par conséquent, nous ne laissons passer, laissons rien passer. 30 du moins, et nous irons aujourd'hui jusqu'à 40 inclus. Chapitre 6. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Mais Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Nous nous rappelons le commencement de cet entretien avec une partie de la foule, cette foule qui était restée sur la rive orientale du lac de Génézareth et qui, ayant vainement cherché Jésus de l'autre côté, s'étant aperçu que, malgré l'absence de barque, Jésus avait disparu, ils avaient traversé eux-mêmes dans des barques le lendemain, ils avaient traversé la mer de Galilée, étaient arrivés à Capernaum, et là, ils avaient retrouvé Jésus. Et cet entretien est donc en cours. Jésus venait de leur dire, « Ah, vous voulez savoir quelles sont les œuvres de Dieu ?» Eh bien, l'œuvre au singulier, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et alors là, nous étudions maintenant la suite de ce discours, de cet entretien. Nous sommes obligés de couper en morceaux parce que l'étudier dans son entier, ce serait gâcher véritablement la méditation. On ne peut pas, en l'espace de trois quarts d'heure ou d'une heure, on ne peut pas faire tant de choses, il faut prendre son temps. Peut-on se demander comment ceux qui ont assisté à la multiplication des pains, car ces gens-là y ont assisté, et ils ont assisté aussi à d'autres miracles, comment est-il possible qu'ils adressent à Jésus une telle demande? Quel miracle, c'est-à-dire quel signe, attention, ben, c'est le mot grec qui signifie signe ici. Il va falloir que nous fassions peut-être une petite étude des mots concernant justement, miracle, prodige, signe, ça c'est le mot signe, n'est-ce pas? Alors, quel signe fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? La multiplication des pains ne leur suffit pas, les autres miracles ne leur suffisent donc pas, et ils demandent encore cela. Quel est leur état d'esprit? Vous voyez, nous pensons toujours évidemment à nos besoins actuels, et à l'évangélisation de notre temps. Et je vous disais qu'il faut, bien, l'évangélisation, c'est une chose qui s'étudie. Ben, si on l'a fait n'importe comment, si on l'a fait à notre petite jugeote, l'évangélisation, avec quelques petits éléments, n'est-ce pas, la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, bon, c'est très bien, nous allons prêcher des éléments justes. Mais comment allons-nous le faire? N'est-ce pas, avec quel esprit allons-nous le faire? Avec quelle discernement allons-nous le faire? Tout est là. Eh bien, il y a donc une psychologie spirituelle. Et tout dans ces textes concourt à nous éduquer quant à cette psychologie, nous instruire de cette psychologie. Il faut donc y faire attention. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que pense cette foule? Parce que Jésus, lui, il en fait la psychologie spirituelle. Et sans, si on ne comprend pas la psychologie que fait Jésus, c'est pas qu'il suit, eh bien, on ne comprend pas ces brusques changements dans le discours, n'est-ce pas? Il va changer, nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? Tout à coup, il y a des changements dans le discours. Pourquoi? Parce qu'il lit dans le fond. Évidemment, il est le grand maître en matière de psychologie, n'est-ce pas? Parce qu'il lit au fond des cœurs. Mais celui qui évangélise doit être conduit par l'Esprit, pas par autre chose que par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit lui permettre aussi de savoir ce que pensent les gens qui sont en face de lui et comment il faut leur parler. Quel miracle fait-il? Eh bien, Jésus, nous nous rappelons, n'a pas cédé à leur désir. Leur désir, c'était de le faire roi. Tout de suite. Le signe qu'aurait voulu cette foule, c'était très simple. Un signe d'autorité. C'est très beau de faire le miracle des pains, et puis il n'y a pas de suite, il n'y a pas de lendemain, puis ça ne change rien. Ils ont réfléchi à la chose, ils voient que ça ne change rien. Ah, on est toujours les mêmes qu'on était hier quand même. On est toujours sous l'Empire romain, on est toujours dans cette triste condition, il y a le roi Hérode qui est là, et puis on aimerait bien mettre un prophète à nous, un prophète qui soit puissant, qui vienne détrôner cet Hérode, et prendre sa place, n'est-ce pas? Alors, il voudrait un signe d'autorité en ce temps et sur ce monde. Autrement dit, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, il voudrait que le règne de Christ s'inscrive dans ce temps-ci, dans les événements de ce temps. Il voudrait que le règne de Christ soit tout de suite actuel. Un signe d'autorité. Si Jésus avait, avec autorité, chassé les légions romaines et les petits roitelets que l'Empire romain avait établi partout, n'est-ce pas, comme Hérode, s'il était monté à Jérusalem à la tête d'une armée qu'il aurait rendu invincible, tout comme David autrefois, ou s'il avait été prophète et roi, comme Moïse. Moïse était prophète et roi. Il conduisait le peuple à la victoire. Il écrasait les nations sur son passage. Alors, s'il avait été comme cela, n'est-ce pas? Alors, ils auraient cru en lui. Et quand ils demandent un signe, c'est à cela qu'ils pensent. Ils demandent un signe d'autorité, tout de suite, n'est-ce pas, pour enlever tout ce qui est pour eux souci, inquiétude, détend, n'est-ce pas, qui est pour eux une source de d'humiliation et de souffrance. Ils voudraient que, d'un coup de baguette, Jésus enlève tout cela, n'est-ce pas, et puis se présente comme ce prince que devant lequel toutes les nations ne devront trembler. Moïse, en somme, aux yeux de la foule, Moïse avait fait un plus grand prodige que Jésus pour eux. Parce qu'il avait donné le pain du ciel au peuple, ce qu'ils appelaient le pain du ciel, cette manne qui était descendue dans le désert, et cela, il l'avait donné pendant de nombreux jours. Nous regardons, par exemple, le psaume 78. Le psaume 78, versets 24 et 25. Il fit pleuvoir sur... Ça, c'est l'Éternel, c'est pas Moïse, mais le peuple, n'est-ce pas, ce qui était action de l'Éternel, le prêtait plus volontiers à Moïse, parce que Moïse, c'est lui qu'on voyait, et c'est par lui que se faisaient les prodiges. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel, blé ou pain, c'est la même chose. Souvent dans l'Ancien Testament, vous verrez blé à la place de pain. Il leur donna le blé du ciel, ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. C'est ça qu'ils voudraient. Mais Moïse ne se contentait pas de faire tomber le pain, un pain bien facile, n'est-ce pas? Mais en plus, il était à la tête du peuple, il était roi. C'est dit, n'est-ce pas, dans Deutéronome, Moïse était roi. Et il usait d'autorité, bien sûr. On était dans la dispensation ancienne, dans la dispensation, l'ancienne alliance, et cela allait de soi. Ainsi, deux dispensations ou deux alliances sont en train de se confronter et de se heurter. Deux alliances. Ces gens-là voudraient rester dans l'ancienne alliance. Ils voudraient demeurer et rétablir ce qu'il y avait de glorieux, ce qu'il y avait de magnifique dans l'ancienne alliance. Ils oublient que si l'ancienne alliance n'a pas été maintenue et n'a pas procuré au peuple l'aisance, le bonheur et la facilité de vivre, c'est parce que le peuple a constamment été infidèle et s'est détourné de son Dieu, sans quoi les promesses du Deutéronome étaient là, n'est-ce pas, elles auraient été accomplies par Dieu, n'est-ce pas, si tu observes mes commandements, si tu es fidèle à toutes mes ordonnances, n'est-ce pas, gardant ma parole, eh bien voilà toutes les bénédictions que tu auras, n'est-ce pas, mais si tu es infidèle, voilà les malédictions, eh bien, ça, ils l'oubliaient. Ils oubliaient même que dans le désert, lorsque le pain du ciel était tombé pendant longtemps, eh bien, ils s'étaient fatigués de ce pain-là, eux-mêmes. Et ils avaient dit, ah Seigneur, ce pain, toujours ce même pain, cette même nourriture. Ils étaient en bonne santé, le pain du ciel les maintenait en bon état, n'est-ce pas? Leur santé était absolument indemne de toute atteinte. Et seulement, ils étaient fatigués. Ah, si on avait seulement de la viande à manger, un peu de viande à manger. Ils ont voulu de la viande. Alors, dans son courroux, le Seigneur a fait dire des cailles. Eh bien, vous en aurez, vous en ferez rassasier de cailles. Tenez, en voici, mangez des cailles. Mais immédiatement, la maladie apparut brutalement au milieu du peuple. Ils ont oublié tout cela. Et ils préfèrent le temps de Moïse. Ils sont encore attachés à l'ancienne alliance, mais l'ancienne alliance, le Seigneur le dit, l'a dit par le prophète et l'épître aux Hébreux, le rappel n'a pas pu être maintenu par Dieu, ne pouvait pas, pour bien des raisons, mais en outre, ils n'ont pas été fidèles. Deux alliances, donc, sont en regard. Pour passer de l'une à l'autre, et c'est ce qui se passe maintenant, ce qui a lieu maintenant, se passe pour passer d'une alliance à l'autre, il faut la foi, il faut une foi réelle. Autrement, c'est toujours la terre qui va retenir les hommes, toujours les questions de la terre, les questions actuelles, sans aucun regard sur l'avenir. Ces gens ne comprennent pas que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et Jésus apporte le royaume de Dieu. Il faut que le cœur de l'homme passe de l'aveuglement à la vérité, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Christ. Toute la suite du discours de ce chapitre 6 portera sur ce thème primordial, n'est-ce pas? Il faut, pour passer d'une alliance à l'autre, pour entrer dans le royaume, il faut absolument de la foi. Alors là, le Seigneur va commencer vraiment à les instruire. Au verset 32, en vérité, ce qui est, je vous l'ai dit, l'Amen. Amen, Amen. Et quand le Seigneur prononce double Amen, n'est-ce pas, nous pouvons être tranquilles, il s'agit là de la proclamation d'une vérité qui doit transformer quelque chose, qui doit affranchir l'esprit de ses auditeurs. Amen, amen, attention, faites garde. Prenez garde, n'est-ce pas? Voici quelque chose que Dieu prononce. Et au pain du ciel qui était tombé dans le désert, ce pain descendu du ciel qui était tombé dans le désert, Jésus va opposer le vrai pain du ciel. Celui qui est tombé dans le désert, c'était bien un don de Dieu, mais il n'était pas le vrai. Comme ici sur cette terre, rien n'est vrai. Vous me direz, mais il y a des choses tout de même que Dieu donne. Lorsque Dieu fait pousser les plantes, les légumes, les fruits dont nous avons besoin, c'est bien un don de Dieu, certes, mais dans le sens biblique et surtout dans le sens du Nouveau Testament, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une manifestation de la grande et unique vérité, parce que la grande et unique vérité s'apparente aux choses de la vie véritable, éternelle, n'est-ce pas? Vérité et vie, je suis le chemin, la vérité, la vie, vérité et vie se tiennent. Or, les choses de l'en bas sont passagères. Donc, tout en étant, cependant, n'est-ce pas, quelque chose que Dieu donne, bien sûr, il fait lever son soleil pour les méchants comme pour les bons, il entretient sur la terre la vie, c'est tout ça, c'est bien Dieu qui le fait, mais ce n'est pas la vérité. Dans le sens, n'est-ce pas, où il faut comprendre maintenant ce grand concept de vérité. La vérité, c'est quelque chose qui assortit la vie véritable, la vie éternelle. Tout ce qui touche à la vie éternelle, c'est la vérité, la grande vérité, mais sur la terre, il n'y a point de vérité. Donc, Jésus apporte la vérité, il apporte la grâce et la vérité. C'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, nous l'avons vu au passage, je le rappelle simplement, qu'il nous était dit au chapitre 1er, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. On pourrait dire, mais quoi, il n'y avait pas de vérité avant? Si, mais une vérité temporelle, une vérité pour les choses passagères, qui n'est pas la grande vérité, laquelle ne s'accorde qu'avec les choses éternelles. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la vérité est venue par Jésus. Et aujourd'hui, si nous évangélisons, si nous parlons de cette vérité. Alors tous les petits trucages qu'on voudra employer dans l'évangélisation, qui sont temporels, tout ce qu'on voudra puiser dans le temporel, vous comprenez combien c'est infâme, combien c'est indigne de la vérité qui descend du ciel. Ah bon? Vous voyez que nous avons bien besoin de réapprendre les leçons que le Saint-Évangile nous donne par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Le vrai pain du ciel, l'un était pour les corps, la manne descendue dans le désert, c'était pour les corps, mais le service que rendait cette manne était éphémère. Jésus le dira, ils ont mangé le pain, cette manne, mais ils sont morts. Ça ne les a pas empêchés de mourir, ça. Ça a entretenu la vie pendant un temps. C'était un pain qui entretenait leur vie, mais qui ne leur donnait pas la vie, la grande vie. L'un, donc, était pour les corps, et son service était éphémère. L'autre était pour les cœurs, le vrai pain de vie était pour les cœurs, pour l'esprit de l'homme. Et ce vrai pain de vie, il vient avec une puissance d'éternité. Le second, ce vrai pain de vie, n'entretient pas seulement la vie du corps, c'est pas son office, non, mais il donne la vraie vie au monde des hommes. Au monde, c'est-à-dire, non pas à Israël seul. Là encore, il y a une petite allusion de Jésus, n'est-ce pas? Vous parlez de Moïse et du désert, ça c'était l'alliance avec le peuple d'Israël. Mais moi, je viens pas seulement pour le peuple d'Israël maintenant, je viens d'abord à lui, mais c'est pour le monde. Ce pain que j'apporte, c'est pour le monde entier, c'est pas seulement pour le peuple d'Israël cheminant dans le désert. Et alors, les gens qui écoutent ça, vont dire, poser cette question au Seigneur. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Donne-nous toujours. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que leur cœur s'est enfin illuminé? Non, pas tellement. Vous savez que la Samaritaine, nous l'avons étudiée, lorsqu'elle entend Jésus lui proposer une eau vive qui, lorsqu'on la boit, éteint la soif pour toujours, alors elle dit tout naïvement, « Eh bien, Seigneur, donne-moi alors de cette eau à boire. Donne-moi de cette eau à boire. » Eh bien, c'est la même chose ici. Les interlocuteurs de Jésus disent, « Donne-nous de ce pain à manger. Donne-nous toujours de ce pain à manger. » Ils ne sont pas encore dégagés du sens littéral du mot pain, et ils pensent toujours à un pain matériel, à une manne, qui se renouvellerait chaque jour, donnant miraculeusement une vie physique vigoureuse. Voilà ce qu'ils pensent. Ah, ce serait si bien. Ne pas travailler, ne rien faire, et puis recevoir de Dieu le pain. Oh, le pain, on mangerait ce pain. Je vous rappelle, ils ont oublié que leurs pères ont murmuré dans le désert parce qu'ils étaient là, ce pain, c'est un pain même qui les lasserait si le Seigneur le leur donnait. Ils ont oublié cela. Or, Jésus va répondre, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Je vous demande de faire bien attention à ce verset. Faites bien attention, relisez-le si vos Bibles sont ouvertes. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il y a beaucoup de choses à retirer de ce verset, bien sûr. Par en peu de mots, le Seigneur dit beaucoup, mais il y a notamment quelque chose que nous allons mettre en évidence. Voilà d'abord, disons-le, une réponse qui déconcerte les auditeurs. Et cela de la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'un prédicateur s'est servi d'un passage des évangiles où l'on voit Jésus guérir, n'est-ce pas? Alors, le prédicateur va bien sûr parler du fait même qui est dans le récit. Il va parler de la guérison d'un impotent, d'un aveugle, d'un sourd, etc. Il va parler de cette guérison, pas? Et puis, évidemment, il va peut-être aussi dire aux gens, eh bien, le Seigneur guérit encore aujourd'hui, il peut vous guérir. Mais que ce soit tout de suite ou que ce soit une réunion ultérieure, lorsque ce prédicateur devra enfin dire aux gens, mais écoutez, c'est entendu, ce Seigneur guérit vos petits malheurs physiques, n'est-ce pas? Bon, il guérit, nous croyons, on va vous imposer des mains et vous serez guéris. Oui, c'est vrai, mais le Seigneur veut guérir avant tout quelque chose d'autre. Il veut guérir votre cœur. Il veut transformer votre vie, et il faut que vous veniez pour cela, à la fois, la guérison, c'est pas le but, il peut le faire, il peut vous le donner, mais c'est pas son but, c'est pas son grand but, c'est de guérir votre... Alors, à ce moment-là, une partie des auditeurs s'en va. Qu'était-il venu chercher? La guérison seulement. Je ne fais pas noter, là, théorie à l'encontre de la guérison divine et de l'imposition des mains, pas du tout, n'est-ce pas? Mais il faut la laisser comme signe dans son acte. Je suis persuadé que la guérison divine, il ne s'agit pas d'ailleurs de la prêcher, il s'agit de la voir. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit, annoncez le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous et guérissez. Nous devrions, par l'imposition des mains et en suscitant la foi chez nos auditeurs, nous devrions les guérir. C'est pas de prêcher la guérison, il nous est demandé. C'est le royaume qu'il faut prêcher. Mais il faut les guérir. Alors la guérison, c'est quelque chose qu'on a. Et je suis persuadé que si on l'a, eh bien alors, là oui, on attire, parce que c'est une voie de Dieu, on attirera alors des foules. Pas toujours ceux qui ont été guéris. Ceux qui ont été guéris pourront s'en aller. Mais d'autres qui auront vu des gens guéris viendront. C'est dans les miracles qui se passent, n'est-ce pas? Ils viendront. Par conséquent, surtout, n'est-ce pas, ne touchons pas à la guérison, mais ne faisons pas de la guérison le thème de la prédication, n'est-ce pas? Ne prêchons pas une mission de guérison divine. Alors ça veut dire, on vous guérit, puis après faites ce que vous voulez. Ben non! Mais ce serait quelque chose de coupable devant le Seigneur. Il faut prêcher le royaume, mais il faut s'attendre à ce que des gens soient déconcertés. Ils seront déconcertés. Ceux qui sont attachés à la terre, au corps, et chers amis, surtout que dans l'Église, on cesse d'être attaché à son corps. Écoutez, quand on voit dans l'Église des gens qui ne pensent qu'à leur petite misère corporelle, eh bien, c'est quelque chose qui est attriste. Quelque chose qui est attriste. Je sais bien que c'est pas agréable d'être malade et que l'on cherche à s'en débarrasser. Eh bien, cherchez-le, mais de la bonne manière. Et aspirez au-dessus de tout au royaume céleste. Recherchez essentiellement, le Seigneur ne vous a pas dit recherchez la guérison, recherchez au-dessus de tout le royaume de Dieu et sa justice, puis toutes les autres choses vous sont données par-dessus. Ça aussi, ça s'applique, n'est-ce pas, au soulagement des misères. Mais cherchez la guérison et venir penser, c'est avoir l'état d'esprit de ces gens-là qui voyaient que les choses temporelles, les choses du moment, c'est se faire un Ésaü qui ne voit que le plat de lentilles pour satisfaire sa faim, la faim de son corps, son estomac qui crie. Ça, c'est se faire Ésaü. Mais non, il nous faut rechercher les choses d'en haut et uniquement ces choses. Alors, ce que le Seigneur veut, bien entendu, leur dire, c'est que ce pain-là, c'est un pain qui est fait pour le cœur et pas pour l'estomac de l'homme, pour l'esprit de l'homme. C'est un aliment spirituel. Et pour cela, il faut venir à lui par la foi et par repentance. Bien entendu, le pain de Dieu, n'est-ce pas, qui donne la vie au monde, c'est le Sauveur, descendu du ciel, c'est lui-même, je suis le pain de Dieu, le pain de vie, c'est le Sauveur descendu du ciel, et pour être nourri de ce pain, il faut venir à lui avec faim et soif de vérité et de salut. Si l'on ne vient pas avec faim et soif, nous reviendrons là-dessus, et ça, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Attention, là, à l'évangélisation, n'est-ce pas, comprenons ce qu'est l'évangélisation et ce qu'elle exige. C'est pas si facile qu'on croit d'être évangéliste. S'imagine que le ministère d'évangéliste, oh ben c'est beau, c'est le plus simple de tout, c'est plus facile parce que on s'en va et puis on fait, on crie un peu fort, là on fait chanter vivement, on provoque un enthousiasme, une ambiance, n'est-ce pas, et puis bon, on annonce, ça, n'est-ce pas, des choses, oui, alors on rue. Et le récit nous dit, ce récit très condensé, nous dit que les disciples voulaient prendre Jésus dans la barque. Mais cela ne se fit pas. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, mais il ne nous est pas dit que le Seigneur monta dans la barque. Ils voulaient le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Là, il y a un mystère dans le texte, parce que le mystère, d'ailleurs, se voit très bien dans le texte original, plus que dans la traduction. Ils étaient encore à, mettons, 15 stades, c'est-à-dire 2 ou 3 kilomètres, peut-être, n'est-ce pas, 2 ou 3 kilomètres de la rive vers laquelle ils se dirigeaient. Ils avaient fait, mettons, 5 kilomètres, passés, peut-être, si c'était 30 stades, ça faisait un peu plus, peut-être de 5 kilomètres, et ils avaient encore, mettons, 3 kilomètres à faire. Il se peut qu'ils aient traversé un endroit où la largeur était de 8 kilomètres seulement, d'après les renseignements que l'on a, n'est-ce pas, la plus grande largeur serait de 10 à 11 kilomètres dans le lac de Génézareth. Mais ils étaient donc encore éloignés de la rive. Or, il nous est dit, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors, il faut réfléchir là-dessus, sur cette chose. Et l'on peut se dire ceci. Il est certain qu'il se passa quelque chose qui ne nous est pas décrit, mais pensons bien à ceci, c'est qu'il était impossible que le miracle de la marche de Jésus sur les eaux eut pour fin un instant de navigation à rame. Après avoir marché sur les eaux, voyez le Seigneur monter dans la barque, et puis les disciples continuaient de ramer alors que la barque est secouée et agitée, n'est-ce pas? Quelle transition avec la majesté du miracle, et puis cette pauvre navigation humaine, difficultueuse et pénible, nécessitant un fort travail des muscles. Voyez quel contraste, d'ailleurs c'est le contraste, chers amis, entre ce qui est la puissance de Dieu et ce qui est la pauvreté de la condition humaine aujourd'hui. Voilà le contraste. Voilà Jésus marchant sur les eaux, peu importait la tempête, il était là, facilement porté, et je vous dirai tout à l'heure comment le miracle peut être vu. Et puis alors, la condition de ces hommes. Et vous auriez voulu que, de sa condition, le Seigneur Jésus entre tout de suite dans la barque. Cela n'était pas possible dans l'instant. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu agissant, un second miracle se fait, la barque. On ne sait pas comment, on n'a pas mesuré le temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu comme une coupure dans le temps. La barque à bord. Nous sommes arrivés. Ça y est, nous sommes arrivés. Vraiment, c'était le jour et la nuit du miracle, du grand miracle. Véritablement, aux côtés de Jésus, on se trouvait transporté dans un tout autre monde. Parlez maintenant un peu de ce miracle de la marche sur les eaux. Rappelons-nous que nous avons terminé notre précédente leçon sur le verset 15 du chapitre 6, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus ne voulait pas qu'on le fît roi, bien sûr, je vous ai expliqué pourquoi. Mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas de ce temps, et si Jésus acceptait, avait accepté une pareille chose, c'était, n'est-ce pas, la victoire de Satan. Les hommes n'étaient pas changés, restaient ce qu'ils étaient. Il ne pouvait s'agir de cela, bien entendu. Mais les Juifs étaient incapables de comprendre cela. Alors, on voulait donc enlever Jésus pour le faire roi. Là était l'idée bien accrochée au cœur de ces hommes encore enténébrés. Quand on n'est pas éclairé sur les desseins de Dieu, comment voulez-vous que l'on comprenne? Et l'on a des pensées, des aspirations, des projets qui sont tout à fait qui vont à l'encontre des desseins de Dieu. Ce projet donc était insensé, n'est-ce pas, d'établir la royauté de Christ dans le temps présent, dans ce siècle-ci. Et à cette pauvre royauté qu'on voulait lui attribuer, Jésus oppose, par sa marche sur les eaux, son empire sur les forces naturelles. Il fait des eaux mouvantes de la mer son marchepied. Et c'est ce qu'il est venu faire sur la terre. Il est venu sauver ceux qui se laissent guider au rivage par lui. Et voilà pourquoi le complément de ce miracle. Il a guidé ses apôtres au mirage. Ils abordèrent tout de suite. Ils ne savent pas comment cela s'est fait. Le Seigneur étant arrivé là, la barque a été comme portée par la puissance divine au rivage. Il est venu donc pour sauver ceux qui se laissent guider au rivage par lui. Et il est venu aussi pour marcher sur la toute-puissance de ses ennemis, sur les eaux en colère. L'Empire du Christ, le voilà. Le voilà son règne, la pauvre royauté d'ici-bas, que Satan voulait lui donner, que des hommes qui ne comprennent pas, des hommes qui sont encore dans leurs pensées humaines, voudraient eux aussi lui donner à cette royauté, royauté qui n'est pas digne de Dieu, L'évangélisation et le ministère de l'évangéliste, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne pense. Parce qu'il faut une pénétration dans la psychologie spirituelle des gens. Il faut voir s'ils sont encore dans la nuit, dans les ténèbres, et il faut, avec amour, savoir les aider pour qu'ils en sortent, n'est-ce pas? Il faut filtrer la vase, mais il ne faut pas la remuer. Eh bien, la vie donc véritable, celle qui était au commencement avec le Père, comme nous dira ce même évangéliste Jean dans sa première épître, cette vie a pris place et est faite dans un corps d'homme. Ça, nous aurons à l'étudier, nous essaierons d'étudier cela particulièrement. Je voudrais encore consacrer une étude spéciale à la vie, et nous avons laissé des choses en panne. Nous avons bien parlé pendant une journée, surtout, de la vie et de son environnement spirituel, n'est-ce pas? Mais il nous faut encore bien dire des choses. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il faut que nous étudions la vie, cette vie, dont on parle partout dans les évangiles. Il faut que nous arrivions à l'étudier spécialement. Eh bien, cette vie a pris place, la vie de Dieu a pris place et est faite. C'est ce que Jean veut dire, elle a été manifestée. Elle a pris place et elle a été faite. On la voit, on les touche, on la voit. Jean dit, c'est sensible. J'ai vu, moi, j'ai touché la vie. Il dit pas Jésus, il dit, j'ai touché la vie de Dieu, qui est venue dans un corps d'homme. Elle a été manifestée. Elle a pris forme d'homme. Et c'est bien ce que dit aussi Paul dans les... Elle a pris forme, une forme de serviteur, une forme d'homme, ça. Et c'est de cet homme qu'elle peut être obtenue. La vie ne peut pas être obtenue directement de Dieu pour un homme pécheur. Les hommes pécheurs, c'est fini maintenant. Mais elle ne peut être obtenue que d'un homme. Un homme qui est le fils de l'homme et le fils de Dieu, n'est-ce pas? Cet homme qui a été scellé du sceau de Dieu, c'est lui qui doit nous donner la vie. Le don de la vie et le don de l'environnement. Ceux qui ont assisté à nos études sur la théorie de l'environnement, comme on l'a appelé, oh, ce n'est pas quelque chose d'effrayant. Tout le monde a bien compris, n'est-ce pas? Oui, tout le monde a bien compris. Mais ceux qui ont assisté à ça se rappellent. Alors, il y a quelque chose, vous disais-je, dans ce verset qui est caractéristique, en dehors des belles choses qui sont énoncées, il y a quelque chose de caractéristique. « Je suis le pain de vie », verset 35, « Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, nous avons deux termes qui sont employés, et ce n'est pas pour rien, hein. Venir et puis croire. Venir et croire. Deux termes qu'emploie ici le texte et qui ne sont pas équivalents. Ils ne disent pas la même chose. Alors, s'ils ne disent pas la même chose, il faut donc que nous tâchions de découvrir la différence de l'un à l'autre. Et s'ils ne disent pas la même chose et s'il y a une différence, c'est donc bien qu'il y a deux opérations, n'est-ce pas? Deux choses à faire et non une seule. Alors, quel sera ici le sens de venir? Venir, eh bien, ce sera bien entendu ceci. S'approprier Jésus, s'approprier le Christ, s'il vous plaît, s'approprier le pain de vie, n'est-ce pas? Se l'approprier lui-même, et par lui, n'est-ce pas, du moment qu'on se l'est approprié, recevoir la vie. Voilà, n'est-ce pas? Venir, c'est cela, s'approprier Jésus, saisir Jésus. Rappelons-nous cette parole de Paul à Timothée, n'est-ce pas? Jésus m'a saisi et moi j'ai saisi Jésus. Plutôt à Timothée, lui dit, saisis la vie éternelle, mais l'apôtre Paul dit ailleurs qu'il a saisi Jésus, Jésus l'a saisi, il l'a saisi, ils se sont en somme saisis mutuellement, s'approprier Jésus et recevoir la vie. Et puis alors, moi, hein, alors là, ça a un autre sens, ça a le sens ici, de confiance, et abandon. Et abandon, alors pas pour un moment, abandon définitif. Confiance et abandon. Et alors, confiance et abandon, qu'est-ce qui va en résulter? Là, c'est la vie. Il va en résulter ceci. L'aliment spirituel, qui est un aliment et un breuvage à la fois, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, faim et soif supprimés, n'est-ce pas? Voyez-vous? Voilà, n'est-ce pas? Ici, donc, c'est la vie qui est saisie. Et ici, c'est l'aliment de la vie qui est pris. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Rappelons-nous, n'est-ce pas, ce que nous avons dit. Voici l'homme naturel. Bon, cet homme naturel, c'est l'homme inconverti, c'est l'homme animal, c'est l'homme qui est dans l'ignorance. Bien. Alors, Jésus vient. Cet homme, il va être promu. Nous avons représenté ça par les niveaux de création, n'est-ce pas? Je montrais que l'homme naturel était un niveau de création qui correspond d'ailleurs nous l'avons distingué des niveaux de la vie animale, de la vie végétale, mais enfin c'est un niveau qui est sur Terre, c'est un niveau d'ailleurs qui n'était pas prévu pour l'homme. C'est à cause de la chute que l'homme naturel est à ce niveau, et nous avons vu le franchissement d'un seuil pour arriver à un autre niveau de création qui est celui de l'homme spirituel. Alors ici, n'est-ce pas, nous allons arriver à l'homme né de nouveau, que j'appelle l'homme spirituel. Ben, j'entends bien, homme né de nouveau, qui a franchi le seuil, n'est-ce pas, et qui est passé à une vie véritable, à la vie véritable, qui a reçu la vie véritable. Enfin, alors, ce que nous avons eu l'occasion d'enseigner, c'est que, de même qu'il faut à cet homme-là un environnement, quel est de nature terrestre, un environnement, c'est-à-dire il lui faut le soleil, il lui faut la lumière, il lui faut l'air, il lui faut la chaleur, il lui faut la nourriture qu'il puisse à la terre pour son corps, etc. C'est ce que nous avons appelé l'environnement. C'est tout ce qui est complément de la vie. La vie sans environnement n'existe pas. Ça n'existe nulle part, l'avons démontré. Une vie sans son environnement, sans quelque chose de complémentaire, ça n'existe pas. Pas plus qu'il n'existe de feu sans qu'il y ait un carburant et un comburant. Ça, les deux choses, ça c'est une loi de la nature. Il faut le savoir quand même. Pas de la haute science, mais c'est de la science tout de même qu'il faut savoir. Alors, de même cela, n'est-ce pas? Eh bien là, cet homme a besoin, ce que je mets en ELV, donc c'est environnement. Baptiser environnement, l'environnement spirituel, c'est-à-dire qui est quelque chose qui tient d'esprit, qui est d'esprit, n'est-ce pas? Alors, donc, le Seigneur fait cela, n'est-ce pas? Et puis alors, deuxièmement, on pourrait dire premièrement, n'est-ce pas? Et deuxièmement, nous décomposons pour la bonne compréhension. Premièrement, donc, le Seigneur fait faire ce don, et deuxièmement, il donne l'environnement spirituel. D'où venir à moi pour avoir la vie, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Venir à moi pour avoir la vie, venir. Et puis,
n'est-ce pas, croire, c'est-à-dire, alors là, ça prend de Dieu, donner confiance pour recevoir l'aliment qui est un aliment parfait, magnifique. Il n'y a plus de soif, il n'y a plus de faim lorsque cet environnement est donné à la vie spirituelle.
Voilà donc ce que nous retrouvons toujours, voyez-vous, dans tout au long de la parole de Dieu, nous retrouvons toujours cette même chose, n'est-ce pas? D'abord, une promotion, n'est-ce pas? L'homme est rendu capable parce que cet homme spirituel, cet homme naturel, là, oui, n'est-ce pas?
Il ne peut pas prendre ça. Lui demander de croire et prendre l'environnement spirituel, il ne peut pas. C'est pas possible, c'est impossible, ça, voyez-vous. Ça, ici, c'est impossible. Il n'y a que ça qui est possible, il n'a que les choses de la terre. Il ne peut prendre et se nourrir et avoir son complément naturel que dans les choses de la terre. Ça, c'est, faut pas lui demander ça. Bah, alors, il faut qu'il passe là, à l'état d'homme spirituel. Alors là, il aura l'environnement spirituel, c'est-à-dire la lumière de la vie, la grâce, n'est-ce pas, tout ce qui alimente la vie spirituelle, qui est représenté par un flot d'eau vive, qui est représenté par le pain de vie, n'est-ce pas, cet aliment spirituel, eh bien, il l'aura à condition d'être d'abord promu. Donc deux choses, venir, n'est-ce pas, venir au Seigneur, et deuxièmement, croire. Et dans les termes de la langue primitive, de la langue originale de l'Évangile, ces deux choses sont distinguées. Ben là, il y a deux mots français, évidemment, seulement la plupart du temps, on ne fait pas cette distinction qui est extrêmement importante. Il faut venir, et c'est pourquoi, mes amis, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, mais il faut que Christ soit prêché, nous allons le voir un peu plus loin. Parce qu'il faut qu'on vienne à lui. On ne peut pas, n'est-ce pas, nous voudrions faire ce qui est marqué par le trait rouge, n'est-ce pas, donner à un homme que nous laissons dans l'état d'homme naturel, lui donner l'aliment spirituel. Quelle sottise! Il ne peut pas. C'est écrit dans l'Écriture. Les choses pour l'homme naturel, l'homme animal, ne peut pas, n'a pas connaissance des choses spirituelles, il ne peut pas. C'est l'apôtre Paul nous le dit pourtant formellement bien, mais nous ne tenons pas compte généralement de la parole, c'est malheureux. Nous évangélisons sans tenir compte des évangiles. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui, il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça, il ne peut pas. L'aliment spirituel, c'est pas possible. Alors l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Hein. Donc il faut passer à l'état d'homme spirituel pour pouvoir manger l'aliment spirituel et boire le breuvage qu'est Christ. Alors, nous dira Jésus dans le verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Là encore les deux choses, « Vous m'avez vu, vous pourtant. Vous m'avez vu, mais vous m'avez vu avec des yeux de chair. » Vous m'avez regardé à travers une pensée charnelle, une pensée toute faite de préoccupations terrestres, temporelles, matérielles. Vous m'avez vu à travers ça, n'est-ce pas? Et puis, vous ne croyez point, alors vous n'avez ni la vie, ni naturellement l'environnement de la vie, ni l'aliment. Ils ne voient pas, ils ne croient pas, donc ils n'ont reçu ni vie, ni nourriture, c'est très net. Ils voudraient bien des prodiges de Dieu, ils croient que Dieu existe, mais ils sont des gens sans faim et sans soif. Et ils ne peuvent pas avoir faim et soif dans l'état de leur pensée, dans l'état où ils sont. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes, seule la situation politique et les questions temporelles les préoccupent, ils ne ressentent aucun besoin spirituel. Voilà ce que constate le Seigneur Jésus. Regardons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais qui va-t-on rassasier? Ceux qui n'ont pas faim, ah non, ça ferait mentir le verset, la béatitude, n'est-ce pas? Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif, n'est-ce pas? Autrement dit, ceux qui, pendant un temps, sont là, j'ai faim, n'est-ce pas? Ceux qui souffrent de la famine, ceux qui souffrent de la disette de pain et d'eau, comme dira Amos, ceux-là, ils sont heureux, parce que ils vont recevoir, ils vont être rassasiés, n'est-ce pas? Mais ceux qui n'ont pas faim et qui n'ont pas soif, eh bien, ils sont rassasiés de rien du tout. Et alors, ils restent dans une situation dont ils souffrent. Eh bien, chers amis, n'est-ce pas, j'en reviens encore à l'évangélisation. Nous voulons employer toutes sortes de petits moyens, n'est-ce pas, les petits moyens artificiels, que j'appellerai artificiels, qu'on s'ingénie à aller trouver partout, parce que notre monde est riche de techniques. Il a toutes sortes de bricoles, d'instruments, que, pas toutes sortes de toute une chose. Pas puis alors, bien sûr, c'est pas là, on peut les employer aussi avec le mode d'emploi du monde. Pas non seulement le monde a la machine, il a les techniques, mais il a le mode d'emploi aussi. Alors on prend les machines du monde et puis le mode d'emploi du monde, puis on se dit, avec ça on va évangéliser, alors on va essayer d'attirer des gens, n'est-ce pas, et puis on va leur dire, Jésus guérit, n'est-ce pas, Jésus sauve, etc., n'est-ce pas, bon, oui. Et puis, vous croyez que vous aurez fait quelque chose, vous croyez que vous aurez fait quelque chose aussi avec la littérature, une littérature que vous allez distribuer, qui va proposer un salut à des gens qui ne le recherchent pas, qui n'en ont pas le besoin. Mais c'est pas ça. La première des choses, numéro un, c'est de devenir homme spirituel, c'est de naître de nouveau. Alors pour ça, il faut les faire naître de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut pour les... Qu'ils voient Jésus, qu'ils viennent à Jésus, n'est-ce pas? Qu'ils viennent. Alors, il faut leur présenter Jésus. Nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas, que là, ce que le Seigneur veut, et c'est ça le premier acte essentiel de l'évangélisation, c'est de montrer Jésus tel qu'il est, le montrer. Hein? Et ça, on ne peut pas le faire autrement que par une prédication inspirée du Saint-Esprit. Voilà la recette. Il n'y en a pas d'autre. La méthode d'évangélisation, c'est celle-là. Essayez de remplacer par des ersatz. Vous n'obtiendrez que des ersatz de chrétiens. Alors, au verset 37, nous lisons « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ah, que voilà une belle affirmation. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » N'est-ce pas? Comment le Père, là, d'ailleurs le Seigneur va y revenir dans ce même chapitre 6, mais comment le Père qui est au ciel va-t-il donner à son Fils Jésus sur la terre? Et Jésus ne sera pas toujours sur la terre, mais il sera quand même là toujours comme chef de l'Église. Eh bien, comment va-t-il donner à son Fils des âmes? Selon quoi? Comment va-t-il lui-même choisir le Père? Comment va-t-il faire pour choisir des âmes qu'il va donner à son Fils? Eh bien, il va les choisir uniquement par cette faim et cette soif. Cette faim et cette soif qui réaliseront aussi ce que l'on trouve dans les béatitudes, l'humilité. Le psaume 25 est pour ça d'une clarté magnifique. L'homme humble et qui craint Dieu, qui a une certaine peur de Dieu. L'homme humble, et c'est souvent le pauvre, celui qui est dépossédé, pas celui qui se sent dépossédé. Nous revenons toujours à ce que nous avons enseigné, vous savez, en théorie. L'homme dépossédé, il est dépossédé de justice. Il est dépossédé, il a soif de justice, il a faim, il est dépossédé. Cet homme dépossédé, qui se sait dépossédé, il y a un soupir en lui. Oh Seigneur, qui va pouvoir me donner si mince? Ah, ça viendra du ciel. Bon, peu importe comment il le dira. Ce soupir, c'est ça qui va déterminer à pousser cette âme. Et là, il y a une action d'en haut. Attention, une action d'en haut, n'est-ce pas? Tenez, verset 44 du même chapitre 6. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » et je le ressusciterai au dernier jour. Ne l'attire. Il faut donc que le Père, n'est-ce pas, exerce un attrait d'en haut sur l'âme et il va la donner à Jésus. Et à qui Jésus va-t-il donner la vie et l'environnement et la nourriture? À ceux que le Père lui donne, pas à d'autres. Voilà déjà une première constatation. Pas à d'autres. Alors on peut faire tout ce que nous voudrons, si nous ne comprenons pas ça, eh bien, alors, puisqu'il en est ainsi, suscitons la faim, suscitons la soif de justice et de vérité, mais pas avec, en apportant les niaiseries et les abominations du monde, s'il vous plaît. En apportant quelque chose qui pourrait vous donner soif et faim, n'est-ce pas si, moi, en ce moment, je n'ai pas envie de gâteau, mais peut-être que si on m'amenait ici la vitrine d'un beau pâtissier, avec des choses qui sentent bon, tout à l'heure, je suis passé là, dans le hall, et il y a un petit fumet qui montait de la cuisine par l'escalier, n'est-ce pas, qui vous donnait faim, n'est-ce pas, j'aurais volontiers mangé une assiette, enfin, pas à ce moment, mais maintenant, n'est-ce pas, à l'heure du midi, eh bien, là, n'est-ce pas, j'aurais faim et soif. Mais présentez des choses de justice, présentez des choses de vérité, présentez votre vie vous-même claire, juste votre vie purifiée, présentez la sainteté, la blancheur de Christ en vous. Voilà ce qu'il faut amener. C'est pas du tambour, ça, c'est pas de la... du rythme, non. C'est quelque chose, au contraire, qui relève de la paix de Dieu. Présentez la paix. Alors vous allez susciter la soif et la faim, et vous allez montrer Jésus. Voilà comment il faut évangéliser, mes amis. Il faut, sur l'estrade, et il faut autour de l'estrade, des gens qui, regardés par les nouveaux venus dans une réunion, ah, se disent vraiment, ah oui, ah, je voudrais bien être comme eux. Ah, vraiment, ils ont cette paix. Vous savez, la paix, ça se fabrique pas artificiellement, hein. Parce que la paix et la joie de fabrication artificielle, ça repousse. Et le diable est là, qui dit, tu vois, eh ben, c'est un masque qu'ils ont sur eux. Ils se servent de masque, mais c'est pas la vérité. Ils n'ont pas la vraie paix et la vraie joie. Ils font la vraie paix. Nous ne pouvons pas évangéliser si nous ne sommes pas nous-mêmes des disciples accomplis du Seigneur. C'est ça qu'il faut savoir. La faim et la soif de justice détermineront donc Dieu le Père à donner une âme à son Fils. Et quand une âme est donnée par le Père au Fils, qu'est-ce que fait celui-ci? Eh bien, il nous le dit ici. Est-ce qu'il la met dehors? Non, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais il vient à moi parce que le Père l'a envoyé à lui, l'a attiré à Christ, voyez. Donc Christ, on pourrait dire personnellement, ne cherche pas à attirer. Il prend ceux qui sont attirés. Donc vous voyez qu'il y a un grand mécanisme subtil, spirituel dans l'évangélisation, mes amis. Et quand on vient fausser tout ça avec n'importe quoi, n'est-ce pas, la publicité qu'on a, une pauvre publicité qu'on a empruntée au monde, une pauvre musique qui traîne dans les balles et qu'on va venir là, n'est-ce pas, amener sur l'estrade ou dans les réunions. C'est avec ça qu'on veut, on voudrait attirer à Christ avec ça. Oh! C'est l'esprit qui attire! Mais l'esprit attire parce que il a plongé dans le fond des cœurs et des âmes. Mes amis, voilà l'évangélisation, voilà ses bases. Et Jésus ne mettra pas dehors, il ne rejette pas, mais il prend. Et Jésus se donne pour règle supérieure et absolue l'obéissance. Nous l'avons déjà souligné suffisamment, n'est-ce pas, je le rappelle seulement. Il s'est donné pour règle l'obéissance et l'accomplissement des œuvres du Père. Je ne fais rien de moi-même et je ne veux pas. Ma volonté, à quoi me sert-elle ma volonté? Uniquement à faire celle du Père. Voilà Jésus. Ça. Alors, l'obéissance, l'accomplissement, et c'est pourquoi, en définitive, c'est toujours la volonté du Père qui s'accomplira par le Fils, celui-ci ne pouvant en rien et ne voulant en rien modifier la volonté du Père. Alors, mes amis, quelle chose rassurante. N'est-ce pas, si vous êtes de ceux que le Père a donné au Fils, eh bien, nous savons par ailleurs, n'est-ce pas, nous verrons dans le chapitre 17, si nous allons jusque-là, je l'espère, nous verrons que le Jésus dira, « Je n'en ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Je n'en ai pas perdu. » Voilà encore un problème, mes amis. Je n'en ai pas perdu. Et puis nous avons des assemblées qui sont comme une passoire. Enfin, alors on en met dedans et puis il en sort par-dessous autant. Enfin, alors ça rentre, oui, on baptise des gens, puis il y en a qui s'en vont, on ne sait plus où ils sont partis, on ne sait plus ce qu'ils... Alors on les dit, oh ben c'est des rétrogrades. Ce ne sont pas toujours des rétrogrades. C'est des gens qui sont passés par des trous parce qu'il y avait des trous dans notre salle. Dans notre œuvre, n'est-ce pas, dans notre manière de faire, mais le Seigneur, lui, il les retient. Il n'y a pas de trou dans son travail, dans son ministère. C'est pas un ministère comme une passoire, c'est un ministère qui retient. Il les a gardés. J'en ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Si des âmes ont été données par le Père, chers amis, nous devrions dans l'Église les garder, ces âmes, précieusement, et ne pas les perdre. Alors, vous voyez, l'évangélisation d'un côté prend possession pour Jésus de ce qui est donné par le Père. Et puis l'Église, d'un autre côté, garde ceux qui ont été donnés par le Père. Mais quelle assurance, n'est-ce pas? Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, à l'exception du Fils de la perdition, Judas. À l'exception de lui, le Seigneur Jésus ne perd personne. Or, le Père ne veut pas, justement, que rien se perde, pas plus que les morceaux de pain qui restaient des deux multiplications. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, avait bien dit, nous l'avons étudié, il a bien dit, hein, rassemblez tous les morceaux, faites bien attention de ne pas en laisser traîner par terre, afin que rien ne se perde. On pourrait se demander pourquoi Jésus a eu souci, n'est-ce pas, de ces morceaux de pain qui avaient peut-être déjà été touchés, coupés, n'est-ce pas, rompus, ces morceaux qui restaient. Il a voulu qu'ils soient recueillis dans des corbeilles afin que rien ne se perde, parce que la multiplication, mes amis, c'était l'image du travail de Dieu. Christ est un grain de blé qui va être multiplié. La multiplication, c'est donc le thème de l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas qu'il se perde même des morceaux cassés. Il ne veut pas qu'il s'en perde. Alors, même il y a des corbeilles, des paniers pour rassembler ça. Le Seigneur a des corbeilles, des paniers pour rassembler ce qui n'est pas... ce qui n'a pas été consommé, autrement dit, quelque chose qui risquerait de se perdre, eh bien, il a des corbeilles spéciales. Et étudiez l'Ancien Testament, vous verrez que le Seigneur, en effet, entend prendre des dispositions pour les faibles, pour ceux qui risquent de trébucher, de ne pas suivre. Vous verrez dans l'Évangile que Jésus nous enseigne que s'il y a une drachme perdue, il faut balayer toute la maison jusqu'en les recoins pour retrouver cette drachme. Et s'il y a une brebis qui manque, eh bien les 99 qui sont là, on les laisse sur la montagne pour aller chercher celle qui manque. Il y a des paniers spéciaux pour les morceaux, afin que rien ne se perde. C'est beau nos théories, mais, chers amis, c'est ça l'Évangile, c'est ça la pensée de Dieu. Là, voilà la pensée de Dieu. Moi, j'ai pas besoin de raisonner ces choses. Je sais que la pensée de Dieu, c'est cela. Et c'est à nous de recevoir cette pensée et de la faire nôtre. Il faut donc que le Fils garde et sauve sans abandonner quoi que ce soit. Il importe donc que Christ délivre, qu'il affranchisse du péché, qu'il soutienne ceux qui lui sont confiés, donnés par le Père. Et il lui faut conduire les âmes jusqu'à la résurrection. Là, ce sera le grand terme, le grand rendez-vous, jusqu'à la résurrection. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit Fils Et croix, n'est-ce pas, vous avez encore deux choses, vous voyez, voit le Fils, donc celui qui s'est approché du Fils, qui a contemplé le Fils, qui a reçu de lui la vie, et celui qui croit, c'est-à-dire qui reste dans l'environnement. Attention, croire, vous voyez, ça ne veut pas dire s'échapper de Christ. Ah non, ça veut dire rester dans l'environnement de Christ. Là, voyez-vous. Alors, celui quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et celui-là, la volonté de Dieu est laquelle? Je le ressusciterai au dernier jour. Il faut que je le conduise jusqu'à la résurrection. Il faut que je l'amène là. Parce que je ne dois pas le laisser en chemin. C'est ça la volonté du Père. La volonté du Père est celle-là. Voir ou contempler le Fils. Et alors, je termine sur un petit aperçu encore pour l'évangélisation. N'est-ce pas? Nous avons à susciter dans le monde la faim et la soif de justice. D'abord par une vue. Il faut être la lumière. Il faut que les gens voient une lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'évangélisation possible. Ben, il faut d'abord allumer la lampe et qu'elle soit bien en évidence, la lampe, et que cette lampe, elle rayonne la lumière de Christ. Il faut donc voir, il faut susciter dans ce monde perdu la faim et la soif. Mais vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui, sans le savoir, seraient de ceux qui saisiraient la justice s'ils la voyaient quelque part? Mais il faut la voir. Alors, il faut donc, n'est-ce pas, susciter la faim et puis montrer le Fils. Permettre de le contempler. Et le contempler, comment faire? Il faut le prêcher. S'il n'y a personne pour prêcher Christ, comment croiront-ils, dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? S'il n'y a personne qui prêche Christ, qui présente Christ, il faut donc présenter Christ. Mais il ne faut pas le présenter en mots seulement. Il faut le présenter dans sa personne. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. N'est-ce pas? Et il faut que ce soit une œuvre personnelle. Il faut le montrer en soi, sur soi. Il faut être le suppléant de Christ, l'ambassadeur de Christ. Et si il s'agit d'un grand roi vêtu d'un manteau majestueux, couronné, ce roi du ciel, est-ce que je vais le présenter, moi, affublé de toutes sortes d'oripeaux? Est-ce que l'ambassadeur peut être, lui, habillé autrement que ne l'est son Seigneur? Le Seigneur, il faut qu'il s'habille d'une manière digne du Seigneur. Et nous aussi, nous devons être revêtus des vêtements blancs. Nous chantons ce vêtement blanc avec animation. C'est très gentil, ça. Mais si nous chantons et si nous croyons, soyons revêtus des vêtements blancs. Et alors ces vêtements blancs, je vous assure que le monde n'en a pas. Il n'a pas cette blancheur-là. Une blancheur, nous est-il dit, n'est-ce pas, lorsque Christ a été transfiguré, une blancheur comme aucun foulon de la terre ne peut en produire. Cette blancheur, eh bien c'est ça qu'il faut amener. Il faut être transfiguré, en somme, à la vue du monde, pour que le monde voit Christ dans la personne des disciples. Voit, il faut voir. Il faut contempler Christ. Alors, c'est ça l'évangélisation, mes amis. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, quand je vois que tout le monde s'oriente vers des petites méthodes, des petits systèmes, l'un ce sera la musique, l'autre ce sera, je ne sais quoi, n'est-ce pas, des démonstrations, des conférences, mais je connais un docteur, tenez, de la parole, qui est américain, et qui lui-même l'écrit dans un livre, n'est-ce pas? Je suis persuadé, dit-il, que les conférences les plus brillantes, les plus belles, ce n'amènera à rien. Ce qu'il faut, c'est une prédication violente, forte, puissante, et montrer Christ, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut. Et tant qu'on sera à côté de ça, on sera à côté de la vérité. Eh bien, prions, mes amis, pour que nous soyons dans la vérité. Amen.